Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, il a fallu un peu changer le programme. Donc, nous avions commencé une série thématique sur notre rapport aux autorités. Mais il semble que pour cet après-midi, et en comptant sur la souveraineté de Dieu, il faille parler d'autre chose. Et j'aimerais commencer par une vidéo que nous allons visionner ensemble. Peut-être que vous l'avez déjà vue. En tout cas, ça va introduire le sujet d'aujourd'hui. S'arrêter.
Hey!
S'arrêter là, ouais. Ah, juste. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo. Moi, je m'y reconnais. Parce qu'il est tellement facile de discuter sur la Bible, de débattre sur les mots utilisés, au lieu de faire ce qui nous est enseigné, au lieu d'obéir au commandement de Dieu. Et cet après-midi, je voudrais vous emmener sur cette colline où Jésus s'est assis et s'est mis à enseigner la foule et tout particulièrement ses disciples. Et l'enseignement qu'il leur dispense nous est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5 à 7. C'est le fameux sermon sur la montagne dont nous allons lire tout de suite la conclusion. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Pour la fin d'un discours, c'est plutôt une fin marquante. Et dans les versets qui précèdent notre texte, dans les versets 15 à 20, Jésus mettait en garde ses auditeurs contre les faux prophètes, ces personnes qui se comportent comme des agneaux alors que ce sont en réalité des loups. L'arbre se reconnaît à ses fruits et ces gens-là ne portent visiblement pas de bons fruits. Et notre texte aussi contient des avertissements. Mais cette fois, Jésus amène ses auditeurs à s'examiner eux-mêmes, à examiner leur état spirituel. Et cet après-midi, la question se pose aussi pour nous. Sommes-nous des chrétiens pratiquants? Comment savons-nous si nous sommes vraiment des disciples de Jésus? Comment savons-nous si nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu? Et je pense que toutes ces questions se posent lorsque nous lisons ce texte. Eh bien, je vous propose qu'à partir de ce texte, nous puissions relever trois caractéristiques qui définissent un vrai disciple selon Jésus. Premièrement, le vrai disciple ne se contente pas de dire ni de faire. Le vrai disciple ne se contente pas de dire ni de faire. J'aimerais vous montrer l'image suivante. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais vous voyez que de part et d'autre, on voit deux entrées, deux portes. Par quelle porte aimeriez-vous entrer? Par la porte où il y a écrit « Soyez le bienvenu » ou bien par la toute petite porte que vous voyez là-bas? Quelle est la porte la plus attirante? Et puis si on recule un peu d'un pas et qu'on voit l'ensemble de cette œuvre, eh bien nous voyons au bout du chemin ce qui nous attend. Eh bien en fait, cette image nous illustre ce que Jésus disait quelques versets plus haut encore, au verset 13 et 14. Jésus exhortait ses auditeurs à entrer par la porte étroite, celle qui mène à la vie. Ce n'est pas forcément la plus facile, mais c'est par ce chemin-là que Jésus nous invite à emprunter le chemin de la vie. Car beaucoup emprunteront la porte large, là où il y a écrit « Soyez le bienvenu » pour se perdre. Ce sont des images qui décrivent quelque chose de bien réel. Il y a ceux qui, au bout du chemin, entreront dans le royaume de Dieu et ceux qui n'auront pas accès à ce royaume. Et l'intention de Jésus et que ses auditeurs ne se trompent pas de voix, et surtout qu'ils ne se trompent pas eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus clarifie les choses. Parce qu'il ne suffit pas de l'appeler « Seigneur, Seigneur », comme s'il s'agissait d'un mot de passe pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons juste nous arrêter un instant pour nous demander quel sens ce mot « Seigneur » pouvait avoir pour les auditeurs de Jésus. Lorsque Jésus dit cela, comment ses auditeurs pouvaient comprendre ce qu'on entendait par « Seigneur ». Parce qu'à l'époque, quand on disait « Seigneur » à quelqu'un, eh bien c'était l'équivalent de « maître » ou de « monsieur ». Et je vous rappelle qu'en français, « monsieur », c'est la contraction de « monseigneur ». Alors il y a ce sens qui est possible lorsqu'on dit « Seigneur » et qu'on s'adressait à quelqu'un, « maître » ou « monsieur ». Ou dans un sens beaucoup plus fort, le mot « Seigneur » désigne « Dieu ». C'est le terme qui a été choisi par ceux qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, que nous appelons la Septante, et qui, dans nos Bibles, est traduit par l'Éternel. Donc à chaque fois que nous rencontrons le mot éternel, eh bien dans l'Ancien Testament traduit en grec, eh bien nous retrouvons ce terme-là, Seigneur. Mais on peut se demander, est-ce qu'à ce moment-là, les auditeurs de Jésus pouvaient faire une telle identification ? Est-ce qu'ils pouvaient déjà se dire, Jésus, c'est le Seigneur de l'Ancien Testament ? La question reste ouverte. Mais quoi qu'il en soit, au verset 21, Jésus dit que ce n'est pas suffisant de l'appeler Seigneur, quel que soit le sens qu'on y met derrière. Ce n'est pas suffisant de l'appeler Seigneur si nous passons à côté de la volonté de Dieu. Et le verdict est clair, pour ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, sans faire la volonté de Dieu dans leur vie, le royaume des cieux leur est refusé. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que Jésus peut dire. Et il y a cette réalité qui m'attriste, et que j'ai vu un certain nombre de fois. J'ai vu et connu des personnes qui ont témoigné d'un changement qui avait eu lieu dans leur vie, qui se sont fait baptiser, et quelque temps plus tard, qui ne venaient plus à l'église, ou bien qui reniaient totalement ce qu'elles avaient vécu. Oui, j'ai connu cela. J'ai vu des personnes aller jusque-là. Il est très facile de prononcer des belles paroles, ou en tout cas des vérités au sujet de Jésus, surtout lorsque nous avons grandi à l'église. Mais si nous ne menons pas la vie qui va avec, quelle valeur ces paroles ont-elles ? Le vrai disciple ne se contente pas de dire, et le vrai disciple ne se contente pas de faire non plus. Regardez le verset 22. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » À présent, Jésus donne un exemple concret. Il met en garde contre la fausse assurance. Parce qu'au jour du jugement dernier, lorsque tous les êtres humains seront jugés devant Dieu, et plus particulièrement devant Jésus, eh bien, voilà ce que nous dit Jésus précisément, et cela se produira vraiment. Beaucoup seront sûrs d'être sauvés parce qu'ils auront fait des choses pour Jésus. Et c'est vrai que lorsqu'on lit cela, on se dit qu'ils n'ont pas agi au nom d'un autre Dieu ou d'une autre religion. Leurs actes semblent même montrer qu'ils sont pour le Seigneur. Alors pourquoi Jésus les chasse-t-il loin de sa présence ? À vrai dire, le Seigneur n'est pas impressionné par ces actes de puissance que les hommes peuvent admirer. Et dans son verdict, qui est à la fois infaillible et terrible à entendre, le juste juge souligne ce qui ne va pas. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Je pense que ça fait partie des versets qui peuvent nous terrifier dans nos moments de doute. Et si nous étions dans cette catégorie ? Premièrement, Jésus déclare qu'il ne les a jamais connus. Autrement dit, qu'il n'a jamais eu de communion, qu'il n'a jamais été en communion avec eux. Ces gens ont cherché à bien faire et ont même accompli des choses extraordinaires, mais sans avoir de relation personnelle avec Jésus. Deuxièmement, Jésus dénonce le mal qu'ils commettent. Visiblement, il n'y a aucune trace de repentance, de changement dans leur vie ou dans leur cœur. Publiquement, ils peuvent accomplir de grandes choses, mais dans la vie de tous les jours, c'est le péché qui domine leur existence. Est-ce que dans ces conditions, leurs exploits, entre guillemets, au nom de Jésus, peuvent encore être de bonnes œuvres ? Prophétiser, c'est-à-dire parler au nom de Dieu, de la part de Dieu, chasser des démons ou faire des miracles ne sont pas forcément les marques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Pensez à Judas, qui a trahi Jésus. Lui aussi a été envoyé en mission avec les autres disciples, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Et pourtant, la fin de sa vie a montré qu'il n'était pas un véritable disciple du Seigneur. Et concernant les miracles, eh bien Jésus annonce un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 de faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Ne nous y trompons pas. Le diable sait très bien imiter ce que Dieu fait, mais cela reste toujours une contrefaçon. Et aujourd'hui, nous trouvons encore des gens qui vivent dans l'illusion qu'en multipliant les services à l'Église, ils auront une place auprès du Seigneur. Pour leur salut, ils comptent en réalité plus sur ce qu'ils font que sur ce que Jésus a fait pour eux. Ils savent sans doute que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de leurs péchés, mais malgré tout, leur consécration n'est qu'un voile pour dissimuler une double vie. Si tu sers à l'Église, avec quelle motivation le fais-tu? Et je pense qu'il est toujours bon de se poser de nouveau la question. Avec quelle motivation sers-tu à l'Église? Sers-tu tes frères et sœurs? On pourrait même dire avec quelle assurance? Est-ce que c'est d'un côté une assurance qui est fondée sur ton esprit de service et sur tes œuvres imparfaites? Ou bien c'est une assurance fondée sur Jésus et sur son œuvre parfaite? Sur sa vie, sa mort à la croix, sa résurrection. Sur quoi est fondée ton assurance? Sur quoi tu t'appuies? Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » ou de faire des choses au nom de Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Et dans la suite de son discours, Jésus précise encore sa pensée en s'adressant à ceux qui pensent qu'un bon disciple, c'est seulement celui qui écoute bien son maître. Eh bien, j'aimerais dire que la deuxième caractéristique que nous pouvons voir, c'est que le vrai disciple ne se contente pas d'écouter. Le vrai disciple ne se contente pas d'écouter. Et je me suis amusé à taper sur Google Images les mots-clés « belle villa ». Une belle villa. Alors, je ne sais pas, on ne voit pas très bien. Je ne sais pas si c'est votre genre de maison. Voilà, belle villa. On voit toujours qu'il y a une piscine qui accompagne la villa, hein. Et puis, j'ai essayé de taper aussi d'autres mots-clés « villa en ruine ». Et puis, ça donne à peu près ça. Pour que ses auditeurs retiennent ce qu'il va dire, Jésus emploie l'image de la maison. Et il envisage, et je vais m'intéresser au deuxième cas d'abord, il envisage le cas d'une personne qui écoute ses paroles, mais qui n'applique pas ce qu'elle a entendu. C'est ce qu'on lit au verset 26. « Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. » Combien de fois j'ai pu moi-même lire l'enseignement de Jésus sans mettre en action ce que le Seigneur ordonnait. Et quelle folie et quelle incohérence de faire cela. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo, c'est une folie aussi qui nous guette, de trouver des excuses pour ne pas faire ce qui semble si clair. Mais ici, il semble que cet homme, qui est qualifié de fou, a construit sa vie entière sans jamais chercher à appliquer l'enseignement qu'il a entendu. Il connaît cet enseignement, il l'écoute, il est même peut-être un sympathisant de cet enseignement. Mais les paroles du Seigneur ne se traduisent pas en actes dans sa vie, ou en tout cas ne le poussent pas au changement. Et pour illustrer cette folie, Jésus dit qu'il a construit sa maison sur du sable. Si on essaye de retenir un peu ces images, en apparence, le fou ressemble au sage, parce que tous les deux construisent une maison. Il se peut même que les deux maisons se ressemblent, sont identiques. Et pourtant, quand les intempéries surviennent, eh bien la maison du fou tombe en ruine, parce qu'elle reposait sur du sable. Qui aurait idée de construire une maison sur du sable si ce n'est un fou? Et à quoi font référence la pluie, les fleuves et les vents? Eh bien, certains pensent aux épreuves de la vie, ou bien à la persécution qui est parfois le prix à payer. Pour d'autres, cela fait référence au jugement dernier, au moment où il sera trop tard, au moment où il ne sera plus possible de reconstruire une autre maison. L'homme insensé s'arrête à la théorie, à la connaissance intellectuelle. Il ne va pas plus loin et surtout il ne cherche pas à avoir de relation personnelle avec Jésus. Et finalement, sa connaissance de l'enseignement de Jésus n'est que du sable, si cela ne change rien à sa vie. Il a beau bien connaître le sermon sur la montagne, s'il ne l'applique pas, ce n'est que du sable. Et en 2019, un certain Joshua Harris a beaucoup fait parler de lui. Il fut un temps, c'était un auteur renommé pour ses livres sur les relations garçons-filles qui ont influencé toute une génération de chrétiens. Il a été ensuite pasteur d'une grande église aux États-Unis, mais depuis quelques années, tout semblait s'effondrer dans sa vie. Non seulement dans sa vie, mais aussi dans son mariage et également dans sa foi. Et il y a 3 ans, il a donc déclaré « Je ne suis pas chrétien ». Après avoir vécu tout cela, il déclare « Je ne suis pas chrétien ». Et sauf erreur de ma part, il n'est pas revenu sur ses paroles. Après des années de vie et de service à l'Église, Joshua Harris ne se considérait plus comme un disciple de Jésus. Et il y en a d'autres dans ce cas-là, et c'est triste. Le danger que courent ceux qui se contentent d'écouter, c'est de penser qu'il est suffisant de venir le dimanche à l'église, d'écouter chaque semaine la prédication, d'étudier de temps en temps la Bible. Parce que dans les églises, il y a ceux qui jouent aux chrétiens. Et peut-être, dans un premier temps, sans même s'en rendre compte, ils font les choses par imitation. Mais malgré leur assiduité, rien ne change durablement dans leur vie. Rien ne change durablement dans leurs habitudes, dans leur manière de penser. Et j'ose te demander, est-ce que tu es de ceux qui se contentent d'écouter les paroles de Jésus sans avoir l'intention de les appliquer? Je ne dis pas cela pour vous surveiller, pour chercher réellement qui est vrai chrétien, qui ne l'est pas, mais je vous pose simplement la question. Est-ce que tu es de ceux qui se contentent d'écouter les paroles de Jésus sans avoir l'intention de les appliquer? Et ça, c'est tout à fait possible, malheureusement. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour construire sa maison autrement. Et nous sommes encore dans ce temps de la grâce, dans le temps où le Seigneur est prêt à accueillir celui ou celle qui reconnaît son insuffisance. Il est encore possible d'éviter la ruine complète. Il y a un dénouement qui est bien plus enviable. Encore faut-il comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et si le vrai chrétien ou si le vrai disciple ne se contente pas de dire, de faire ni d'écouter, alors qu'est-ce qui le caractérise au fond ? Eh bien, je pense que vous l'avez deviné, le vrai disciple obéit et applique. C'est cela que nous devons retenir pour cet après-midi. Le vrai disciple obéit et applique. Je reviens au verset 21, où il est dit qu'il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste ». Est-ce que Jésus serait en train de tenir un discours légaliste? Il faut faire. On dirait que ça contredit un petit peu ce qu'on a dit précédemment. Le légaliste croit en effet qu'il sera sauvé grâce à ses bonnes œuvres, parce qu'il aura accompli la loi de Dieu. Et dans ce cas-là, l'obéissance devient une voie de salut sur la base de son propre mérite. Mais qui peut vraiment obéir à toute la loi ? Est-ce que réellement quelqu'un pense que par ses propres efforts et par ses propres mérites, il peut obéir à toute la loi et ainsi espérer être sauvé ? Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Et ce n'est pas non plus ce que Jésus est en train de dire. D'ailleurs, comme nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, l'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi ? Mais vous remarquez ici que Jésus ne parle pas de foi. C'est curieux, non ? Jésus ne dit pas « il faut croire », mais « il faut faire », « il faut accomplir ». Mais de toute évidence, celui ou celle qui cherche à faire la volonté de son Père céleste a déjà la foi. Est-ce que cela a du sens que le chrétien qui a donné sa vie à Jésus ne fasse pas la volonté de Dieu ? Est-ce que cela fait sens ? Alors que signifie faire la volonté de Dieu ? Bien sûr, d'une manière très schématique, cela veut dire faire la volonté d'un autre que soi. C'est renoncer à faire ce que l'on veut parce que désormais notre vie appartient au Seigneur. Et le vrai disciple a confiance dans le fait que cette volonté extérieure à lui est bonne pour lui. Non pas ma volonté, mais la tienne, comme a pu dire notre Seigneur Jésus. Le vrai disciple veut ce que Dieu veut. Et l'accent est finalement mis sur la relation personnelle avec Dieu. Et vous voyez que Jésus précise la volonté de mon Père céleste. Or, Jésus est le seul qui puisse nous mener au Père. Comme nous le lisons au chapitre 11, verset 27, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, celui qui accomplit la volonté du Père connaît déjà le Père, et il est déjà en relation avec lui. C'est pour cela que Jésus n'a pas besoin de parler de foi. Et d'une manière plus spécifique, la volonté de Dieu pour nous est exprimée dans ce que Jésus vient d'enseigner, dans le sermon sur la montagne. Verset 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis, donc qui écoute ce que je dis, ce que j'ai enseigné jusque-là, et qui l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Si nous observons la maison de l'homme sensé, l'homme sage, nous voyons que malgré le déchaînement des éléments naturels, la maison tient bon, car ses fondations sont posées sur le roc. Le propre de la sagesse, c'est donc d'appliquer ce que Jésus enseigne. Et voyez le résultat de la stabilité, de la solidité, une maison qui reste debout. Alors certains voient Jésus derrière l'image du roc, en pensant sans doute à d'autres textes qui font ce rapprochement. Mais ici, est-ce vraiment le cas ? Est-ce que Jésus est en train de se désigner lui-même comme étant le roc ? Il me semble qu'en employant cette image d'une maison solide, Jésus veut surtout nous montrer que la bonne attitude pour être son disciple, c'est de l'écouter et d'obéir à ses paroles. C'est ça qui fait que la maison tient. Autrement, vous pouvez vous attendre à une maison en ruine. Et pour le dire encore autrement, la vie chrétienne n'a de sens que s'il y a de l'obéissance. La vie chrétienne n'a de sens que s'il y a de l'obéissance. As-tu déjà commencé à conformer ta vie à la parole de Dieu? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous sommes en chemin. Et si tu as commencé à changer, si tu as commencé à obéir à la volonté de ton Père céleste, tu es en train d'appliquer ce que Jésus dit. Tu es en train de construire ta maison sur le roc. Et j'aimerais seulement citer deux exemples tirés justement du sermon sur la montagne et qui illustrent à quoi ressemble la vie d'un disciple obéissant. D'abord, ce passage dans Matthieu 5, versets 23 à 24. « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. » Aujourd'hui, nous ne présentons plus d'offrande devant un autel, mais nous continuons à adorer Dieu durant nos cultes. Et ici, la volonté de Dieu est de nous réconcilier avec notre frère à qui nous avons causé du tort. Ce serait extraordinaire si la réconciliation se passait durant les cultes. Si à un moment donné, nous donnions ce temps pour nous dire, « Eh bien, si vous avez besoin de vous réconcilier, faites-le maintenant. » Cela demande du courage, de l'humilité, mais ce serait appliquer ce que le Seigneur nous demande. Un autre passage que nous connaissons bien aussi, dans Matthieu 6, versets 33 à 34, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un autre défi du moment, ne pas s'inquiéter pour le lendemain. L'actualité de notre monde nous encourage à l'attitude contraire, nous pousse vers l'inquiétude. Et plus nous regardons les infos, plus nous nous demandons comment nous pouvons appliquer ce que Jésus nous demande ici. Et pourtant, il y a plus important que l'actualité, le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce que Jésus nous demande de chercher en premier. Et il y a bien d'autres exemples, et l'enseignement contenu dans le Sermon sur la montagne semble parfois si difficile à appliquer. Mais n'oublions pas une chose, Jésus nous exhorte à mettre en pratique son enseignement, mais cela ne se fait pas sans lui. Cela ne se fait pas sans l'action de son esprit en lui. Cela ne se fait pas sans qu'il nous en donne la capacité. Et dans l'évangile selon Jean, nous trouvons cette parole de Jésus. Jean 15, verset 5. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si nous prenons les paroles de Jésus au sérieux, et j'espère que c'est effectivement le cas, eh bien cette semaine est une bonne occasion de lire ou de relire le sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7. Et de voir comment nous pouvons l'appliquer. Si effectivement c'est ce que le Seigneur attend de nous, d'écouter son enseignement et de l'appliquer, eh bien, saisissons cette occasion que durant cette semaine, nous puissions lire ces quelques chapitres et voir comment nous pouvons appliquer cela dans notre vie. C'est ce que le Seigneur nous demande dans sa parole et il nous y aidera. L'un des discours les plus célèbres de Jésus se termine par une vive exhortation à la mise en pratique. À la question initiale, comment savons-nous si nous sommes vraiment des disciples de Jésus? Eh bien, voici trois réponses. Tu es un vrai disciple de Jésus si tu ne te contentes pas seulement de l'appeler Seigneur, mais que tu es vraiment en relation avec le Seigneur. Deuxième réponse, tu es un vrai disciple de Jésus si tu ne te contentes pas d'écouter seulement ses enseignements. Et enfin, tu es un vrai disciple de Jésus si tu appliques ce que le Seigneur t'a enseigné, si tu vis dans cette obéissance à sa parole. Et en somme, tu es un vrai disciple de Jésus si tu es dans cette relation personnelle et vivante avec lui. Parce que dans ce cadre-là, dans le cadre de la relation avec Dieu, eh bien, faire sa volonté est ce que tu désires. Tu veux la même chose. C'est cela, être un chrétien pratiquant ou une chrétienne pratiquante. Et vous l'aurez compris, un chrétien non pratiquant n'est tout simplement pas chrétien. Parce que c'est en contradiction avec ce qu'il est. Et après l'enseignement du maître, eh bien, les disciples de Jésus ne sont pas restés sur la colline. Il était temps de descendre et d'appliquer ce qu'ils avaient entendu. Il est temps aussi pour nous de descendre de la colline. Et maintenant, va ranger ta chambre. J'aimerais vous laisser ce temps pour répondre au Seigneur et à sa parole. Peut-être que le Seigneur a touché du doigt quelque chose que vous devez remettre en ordre devant lui. Et c'est vrai, ce n'est qu'un moment entre vous et lui. Notre Père, nous avons écouté ta parole, mais nous savons aussi que cela ne suffit pas. Et c'est pour cela que nous te demandons encore, dans ta grâce, que tu nous permettes d'avoir les ressources, la volonté d'appliquer ce que tu nous demandes. Et c'est vrai, parfois ça peut nous bousculer, de nous rendre compte que nous ne sommes pas alignés sur ce que toi tu attends de nous. Et c'est pour cela que de nouveau, Seigneur, tu nous donnes cette occasion cet après-midi, non seulement de te demander pardon, parce que bien souvent nous passons à côté de ta volonté. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que parfois il nous est préférable de suivre notre propre volonté, notre manière de voir les choses, sans penser à toi. Mais cet après-midi, nous voulons reconnaître cette insuffisance, parce que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas, Seigneur. Mais nous avons tellement besoin que, poussés par ton esprit, nous ayons cette volonté, ce désir de faire des efforts, d'accomplir ta volonté, de mettre en pratique ce que tu nous enseignes, ce que nous lisons dans ta parole. Oui, aide-nous, Seigneur, parce que nous sommes bien trop faibles tout seuls. Et merci parce que, dans ta grâce aussi, nous pouvons entièrement compter sur le fait que Jésus a tout accompli. Et que quoi que nous fassions, Seigneur, ce n'est pas cela qui nous sauve. Mais parce que, Seigneur, nous sommes sauvés, parce que nous pouvons avoir cette assurance que Jésus a payé pour nous, eh bien oui, nous pouvons alors pratiquer de bonnes œuvres, nous pouvons alors obéir sans nous dire que c'est là-dessus que nous misons notre salut. parce que tout a été accompli. Et pour autant, Seigneur, ta volonté est claire. Tu veux que nous soyons obéissants. Tu veux que nous puissions marcher dans la pratique de ce que tu nous commandes et pas simplement dans la connaissance. Alors aide-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de pouvoir effectivement vivre ce qui est écrit dans ta parole, ce que toi tu nous as communiqué encore cet après-midi. Oui, fais de notre Église, de notre communauté, une communauté de disciples qui n'ont que cette seule intention d'obéir à ce que tu as commandé, de faire ce que tu nous dis. Et tout cela pour la gloire de ton nom. Amen.